Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoVox. Aujourd'hui, on a la maison Antenna pour parler d'un projet passionnant autour de l'accès à l'eau potable, le projet Nanokin. Avec nous aujourd'hui, nous avons à distance depuis le Kinshasa, le professeur Mouladji. Et ici dans le studio, le professeur John Poté de l'Université de Genève. Nous avons également Jessica Asunsao, qui a réalisé un mémoire sur ce projet, et Adrien Leverna de la Fondation Antenna. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Adrien, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Antenna a soutenu ce projet et comment cette aventure a-t-elle démarré?
Alors Antenna est une fondation qui s'inscrit dans une dynamique de recherche, d'application, d'innovation. C'est une fondation qui a une bonne trentaine d'années d'ancienneté et qui avait développé sur plus d'une dizaine d'années la technologie Wata, donc un système pour la production de chlore dans le but de désinfecter l'eau. Or, toute technologie doit à un moment donné être éprouvée, testée, remise en question. Donc c'est un petit peu dans cette dynamique que l'idée du projet Nanokin a émergé, en collaboration évidemment avec l'Université de Genève et de Kinshasa, pour voir si la chloration de l'eau mettait en évidence certaines problématiques avec certains types de germes, ou de bactéries qui éventuellement résisteraient à ce type de procédé. Donc c'était une question ouverte pour voir quelles sont les limites de cette approche.
D'accord, magnifique. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. J'ai pu un petit peu m'intéresser sur le hub d'Antenna et puis voir un peu le fondement du projet et qu'est-ce que vous proposez. Je trouve ça super innovant et puis le fait de contribuer et puis de donner autant d'énergie, je trouve ça vachement cool avec un langage un petit peu plus... Enfin voilà. Aujourd'hui, il y a une question qui pour moi, on va dire, est un petit peu intéressante. C'est un peu la motivation qui vous a donné envie de participer à ce projet. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse justement y répondre. La question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet-là? Je propose qu'on puisse directement commencer depuis la personne qui est en ligne, depuis le Kinshasa, professeur Mouladji.
Merci. Ce qui a plus motivé mon engagement et ma participation, c'est autant d'années de recherche sur la problématique de l'hygiène, assainissement et eau, particulièrement dans la ville de Kinshasa, et aussi les problèmes qui se posent sur la qualité de l'environnement et le problème d'accès à l'eau et aux services de base dans la ville de Kinshasa. Et puis, il y a aussi les problèmes d'électricité. Donc, nos études ont montré qu'il y avait un problème en ce qui concerne la qualité de l'eau consommée par la population, surtout que la société fournitrice de l'eau potable n'arrive pas à répondre aux besoins de la population, surtout dans les milieux périphériques de la ville. Et les gens se retournent vers les différents types d'eau, que ce soit les forages, les eaux de puits et des sources, qui malheureusement sont contaminées par les bactéries. C'est en mettant en œuvre cette problématique et avec mon collègue John, nous avons pensé initier un projet pour essayer un peu d'impacter la population qui vit dans ces milieux-là. Et voilà, c'est sur base de ça, en collaboration avec la Fondation Antenna, que nous avons réussi à formuler un projet et que nous avons mis en place pour essayer de solutionner ces problèmes, surtout que l'université a aussi une mission de rendre service à la communauté. Voilà.
Ok, magnifique. Je propose qu'on puisse directement partir sur Monsieur John Poté.
Oui. Faut savoir que l'université de Genève collabore avec plusieurs universités du Sud dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Avec ces trois missions de l'université, notamment l'enseignement, la recherche et le service à la communauté, ça c'est ce qui motive la plupart donc de chercheurs qui sont à l'Université de Genève de travailler avec les différentes fondations qui rendent service à la communauté, telle que la Fondation Athéna. C'est dans cette optique que nous avons trouvé que la Fondation Athéna développe certaines technologies. Ils partent auprès donc de populations des pays du Sud qui ont des problèmes de santé. Et c'est là que nous avons développé une collaboration avec la Fondation pour voir la situation qui se passe en République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa. Donc, comme mon collègue l'a dit, le professeur Crispin, nous collaborons avec l'Université de Kinshasa depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'eau et nous avons réalisé plusieurs diagnostics, c'est-à-dire voir la qualité de l'eau au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau des provinces, mais la qualité est médiocre. Et on a trouvé qu'il y a des épidémies hydriques, donc qu'on appelle des épidémies silencieuses, puisque l'eau, c'est la vie. Et puis dans les pays en voie de développement, d'après les rapports de l'OMS et puis nos recherches épidémiologiques, il y a plus d'un million de personnes qui meurent chaque année à cause de la consommation de l'eau qui ne répond pas aux normes et puis de l'assainissement. Alors c'est ça qui a motivé de plus en plus que nous puissions apporter la solution durable auprès des populations qui sont vulnérables à Kinshasa. Et c'est ainsi que, à ce qui me concernait, je travaille avec les étudiants qui font les recherches, des travaux de master, des travaux de doctorat. Et une de mes étudiantes qui était très bien, donc c'est parmi les meilleures étudiantes que j'ai connues pour la formation 2022-2023. Hein, ou 2023-2024, voilà. Donc c'est ainsi que c'est elle qui m'a, je pense que c'est elle qui m'a approché, ou bien c'est moi, ça serait mieux qu'elle dise un peu. Et vraiment, c'est une motivation forte qui a été faite. Et puis, je peux vous dire qu'on a sauvé les vies.
Magnifique.
Oui, alors en effet, c'était moi qui avais en premier abordé le professeur John Poté à la suite des cours qu'il avait dispensé à l'université. Et c'est vrai que, en fait, les thématiques qu'il abordait faisaient totalement sens pour moi. Hein, c'est-à-dire qu'on parlait à la fois de l'environnement, de l'eau, également des problématiques qui étaient liées, donc tout ce qui était contamination bactériologique, et en fait l'impact qu'il y avait sur la santé des personnes qui, en fait, consommaient cette eau ou l'utilisaient à divers fins. Et c'est vrai que tout ça m'avait motivée grandement, et j'avais donc pris contact avec John pour lui demander s'il avait un travail à disposition, un projet pour lequel je pouvais participer. Parce que pour moi, c'était important, en fait, de faire un mémoire qui ait du sens et qui ait vraiment, en fait, un impact au-delà de simplement la recherche scientifique, mais qui soit au service de la communauté. Ça, à savoir redonner un droit à ces populations à retrouver une qualité de vie qui, selon moi, doit être considérée comme digne. Et aussi le fait que ce projet présentait des challenges, autant pour moi, en termes individuels, qui, finalement, me permettait aussi d'évoluer en tant qu'étudiante, en tant que personne, et aussi de beaucoup apprendre des circonstances locales, étant donné qu'on est quand même dans un contexte qui était très différent de ce au quoi on a l'habitude ici, du moins en Europe.
En effet. Merci beaucoup pour cette intervention. Et je propose qu'Adrien, vous puissiez directement également partager votre motivation.
Alors, ma motivation, en tant que responsable du projet pour Antenna, j'ai repris donc ce projet courant 2024 à la suite du départ de mes collègues pour l'amener à son aboutissement. Donc la thématique de l'eau sur un plan plus personnel effectivement est quelque chose que j'étudie depuis 2003. J'ai passablement contribué à des recherches sur des différentes technologies, évidemment plutôt tournées vers l'Occident puisque c'était sur le territoire suisse, mais je restais toujours ouvert et curieux de ce qui se passait au-delà de notre pays, parce que la problématique de l'eau pour moi est une problématique globale. J'accorde aussi beaucoup d'intérêt et de curiosité sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que l'eau, comme cela a été déjà dit, est fondamentale pour la vie. Mais comme toute chose, la qualité de cette eau est d'autant plus importante parce qu'elle peut être véhicule de maladies ou de bonne santé. Donc il était évident que dans le contexte d'Antenna, ce projet devait continuer, devait aller de l'avant, et donc nous nous sommes battus en interne pour le maintenir à flot jusqu'à son aboutissement.
D'accord, magnifique. Je propose directement que je puisse vous poser un petit peu des questions, et puis j'en ai une pour vous, Jessica. Avec la réalisation du mémoire que vous avez pu faire, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous avez pu étudier, et puis justement en tenir compte vis-à-vis de ça.
Alors, il faut savoir, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été étudiés dans ce mémoire. Hein. Déjà, d'un point de vue scientifique, toute la partie bactériologique, hein, qui est un des points fondamentaux et qui est notamment le véhicule des maladies, comme on l'a dit, dont les populations en fait sont victimes, mais également d'observer différents paramètres pour évaluer la qualité au-delà de simplement cet aspect bactériologique. Dans un second temps, on a aussi évalué au niveau de l'aspect social comment étaient acceptées ces technologies auprès de la population. Éventuellement, quelles étaient les lacunes ou les connaissances qu'ils avaient par rapport à cette problématique et quels étaient les moyens qui étaient possibles de mettre en place pour éventuellement pallier parfois aux méconnaissances auxquelles on avait fait face sur le terrain. Un dernier volet concernait plutôt l'aspect économique, car dans de tels projets, régulièrement, il faut prendre en compte cet aspect pour la durabilité de ces projets à long terme et d'évaluer si notre technologie, dans le contexte dans lequel elle était déployée, elle était accessible pour la population qui était concernée et s'ils pouvaient du coup se permettre de la payer et donc de permettre la survie finalement de l'utilisation de cette technologie. Ensuite, ce qui a été également extrêmement intéressant, c'est quand on fait des projets dans de tels contextes, il faut savoir qu'il faut vraiment descendre sur le terrain, car sans en fait être en présentiel, on n'a pas une connaissance de l'ensemble des facteurs qui influencent finalement l'ensemble des dynamiques qui se présentent localement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, mais il faut vraiment être sur place pour voir à quel point ça se déroule et surtout avoir une très grande flexibilité. On est dans des contextes où les ressources locales sont relativement limitées et donc il faut toujours savoir rebondir, il faut toujours s'adapter et jamais baisser les bras. Et ça, c'était une des grandes leçons que j'ai appris. Et je pense un dernier point, c'est de savoir que des projets comme ça, ils ont une portée extrêmement importante. Les gens accueillent ce genre de projet avec beaucoup de motivation, les bras ouverts si je puis me permettre, et de voir le retour positif qu'on a de leur part, de voir les effets bénéfiques d'une telle intervention, est pour moi une motivation à continuer à faire des recherches dans le domaine et toujours en fait améliorer et toujours trouver des solutions pour leur permettre d'avoir un accès qui soit en fait durable et accessible surtout et continu. Et ne pas simplement abandonner les projets qu'on met en place une fois qu'ils sont là, ils sont faits, et on se dit c'est bon.
Ok, incroyable. Je trouve ça très, très intéressant le fait que vous avez pu avoir l'opportunité d'aller sur place et justement pouvoir découvrir, parce que c'est vrai que, à la différence de nous, qu'on nous dise les choses ou qu'on les voit par des vidéos ou par des messages ou quoi que ce soit, ou aller sur place et réellement ressentir ce qui se passe là-bas, et aujourd'hui, de comment est-ce que nous, on peut les aider. Je trouve ça tellement plus intéressant et puis enrichissant pour pouvoir par la suite justement réfléchir de quelle manière est-ce que justement un projet peut procéder pour aller de l'avant. Et je trouve ça juste incroyable. On va directement pouvoir continuer. Et j'ai une question pour vous, John, et puis également Crispin. On va dire j'en ai trois plutôt. Je suis désolé, j'ai trois questions.
Mais si tu en as un plus, il n'y a pas de problème.
Ah, magnifique, ça va très bien. Je vais pouvoir me répéter, je vais les dire les trois d'un coup. Comme ça, ça va pouvoir permettre de directement pouvoir continuer la discussion. Et puis, n'hésitez pas à me redemander si vous avez besoin de plus de précisions.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans les résultats que vous avez pu faire concernant cette étude? Qu'est-ce que cela change dans votre façon de voir la suite? Et puis également, que souhaiteriez-vous mettre ou transmettre pour justement poursuivre ce projet?
Ouais, je pense. Jessica, qui a travaillé là-dessus, pouvait mieux répondre à cette question. Mais il faut savoir que, il y a plusieurs projets que je dirige avec beaucoup aussi d'étudiants. Je travaille dans plusieurs pays, notamment en Inde, au Maroc, au Sénégal, et puis à Cuba. Et puis, vraiment, les résultats que nous obtenons sont toujours, je peux dire, très satisfaisants, puisqu'on va sur le terrain. Et puis, le projet, nous les adaptons en fonction des réalités de terrain. Et quand on va avec un projet scientifique, il faudrait donc voir comment les personnes se comportent, comment ils accueillent le projet. Et c'est ça que nous avons fait, puisque avant d'implémenter le projet, il y avait des actions préliminaires qui ont été faites préalablement. Et de ce fait, avec ce que nous avons réalisé, les résultats sont réellement très satisfaisants. Je peux donner quelques statistiques. Donc, on avait un échantillon d'à peu près 35 000 personnes. Et sur 35 000 personnes, nous avons plus de 85 % des personnes qui ont accueilli favorablement le projet. Et du point de vue applicabilité, nous pouvons dire que la chloration de l'eau a porté ses effets. La technologie est très bien appliquée et applicable. Donc, cela s'est traduit par les indices de fiabilité que nous utilisons pour voir la bonne application donc, du projet. Donc, avec ça, nous avons un taux épidémiologique qui a baissé aussi. Nous avons plus de 90 % de 32 000 personnes dans lesquelles on trouve que l'épidémiologie a complètement descendu. Et aussi, d'autres indices, c'est sur le taux d'abstéisme des enfants qui avaient des maladies hydriques. Apprenant cette eau qui est chlorée, plus de 90 % d'enfants n'ont plus encore ce problème. Donc, pour répondre à votre question, c'est une des actions concrètes et puis qui est très, très bien. Que je suis très reconnaissant envers la Fondation Athéna pour cela. Donc, mais je pense que Jessica peut peut-être encore ajouter un mot là-dessus, mais je peux vous rassurer que les résultats sont positifs et puis l'applicabilité a été, disons, le dimensionnement et l'applicabilité a été très bien élaboré.
Éventuellement, juste un mot peut-être supplémentaire, c'est qu'en effet, le chlore qui a été produit à l'aide de la technologie Lawata a en fait démontré son efficacité tant à la saison sèche qu'à la saison des pluies, ce qui est intéressant lorsqu'on est dans un pays qui possède des saisons qui sont extrêmement distinctes, mais que l'efficacité n'était pas uniquement auprès des agents pathogènes d'origine fécale. On a vu qu'en fait, le spectre des limitations allait beaucoup plus loin. Et ça, ça a été une information qui a été d'une grande importance et qui est aussi... donne une plus-value en fait à la technologie et à sa portée sur les différents contaminants au niveau bactériologique.
Donc, on travaille dans un climat tropical, dans les climats tropicaux. Donc, dans une zone de climat tropical, nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Dans la saison de pluie, donc, il y a plusieurs sources de contamination, notamment les eaux de ruissellement. Donc, nous avons le bassin versant, nous avons les apports à partir des installations sanitaires qui sont à moins de 2 mètres des endroits où ils s'approvisionnent de l'eau. Donc, il fallait voir quelle est la quantité de chlore qu'il faudrait utiliser en fonction de la contamination. Et cela a fait que le fait donc, de chlorer et puis de regarder la charge bactérienne a été efficace tant pour la saison de pluie que pour la saison sèche. Et c'est là, comme enseignant, donc j'insiste, que quand vous faites donc de tels projets, il faut regarder les réalités locales climatiques. Avec ce que nous avons actuellement, avec le changement climatique, vous allez trouver qu'il y a des crues, de fortes crues. Et pendant les fortes crues, donc de fois, l'applicabilité devient très compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et dans ce sens-là, nous nous avons adapté. Donc, il y a une adaptation.
Okay. Ce que moi, je peux ajouter, l'accueil du projet a été favorable, surtout que dans le milieu du projet, il y a des forages aménagés. Et puis, il y a aussi des puits non aménagés et aussi l'eau des sources. Donc, ces trois types d'eau sont consommés par la population avec tout ce qu'on a dit plus avant là. Donc, avec la technologie, c'est venu résoudre le problème de contamination et surtout que dans cette technologie, ça fonctionnait aussi de façon autonome. Parfois, on n'a pas besoin de recourir à l'énergie électrique parce que ce sont des kits avec un dispositif solaire. Ce qui a beaucoup plus réjoui les concernés, surtout les sites où sont posés les appareils. Et aussi, ce projet a eu l'aval aussi des autorités locales administratives des communes qui nous ont aussi accompagnés dans la mise en place de ce projet. Et après, évidemment, la sensibilisation de la population et les gens qui se sont prêtés volontairement pour que les dispositifs soient installés dans leur structure où ils gèrent les sources d'eau. Voilà, donc tout ça a fait que, d'ailleurs, nous sommes aussi appelés tout le temps pour voir si on peut disposer encore d'autres équipements pour les gens qui sont intéressés. Bon, vous savez que c'était un projet pilote, mais on sent qu'il y a les besoins qui se font sentir. Voilà, donc ce que je peux ajouter, sinon, ce qui a été dit John et Jessica, c'est ça qui traduit un peu la réalité du terrain.
Mais il faut aussi ajouter, professeur, que il y a l'eau qui présente des fortes charges bactériennes, mais il y a aussi d'autres éléments physico-chimiques tels que l'acidité et puis la présence aussi des métaux toxiques. Ça aussi, il faut regarder. C'est comme ça que la mise en place d'un projet tel qu'il est là, il faudrait aussi identifier les sources potentielles donc de contamination. C'est bien de chlorer de l'eau, qu'on a trouvé des charges de la pollution. Mais si on pouvait aussi réduire ces charges à la source, ça devrait encore être un très, très bon élément. Et ça que nous avons pu identifier, les différentes sources de la pollution de cette charge bactérienne, qui se trouve donc notamment, on a la présence de latrines, on a la présence des charges non contrôlées partout dans lesquelles il y a ces flux d'eau qui rentrent. Donc, et puis, il y a aussi des problèmes d'hygiène, donc, dans lesquels, je ne sais pas, Jessica, qu'est-ce que vous avez trouvé avec ce qu'on a pu, l'eau, puisque ça ne sert pas seulement à chlorer de l'eau et puis à avoir de l'eau potable, mais de la conserver aussi pour la consommation. Donc, est-ce que, peut-être, ce que vous pouvez dire, on a trouvé sur la charge physico-chimique et aussi la conservation de l'eau?
Alors, c'est vrai que concernant la question de l'hygiène et de la charge bactérienne, hein, je rebondis sur la question de la protection de l'eau, parce que traiter l'eau, c'est bien, mais c'est vrai que si on pouvait minimiser la contamination à sa source ou même après traitement, hein, ce qui a été une problématique que nous avons rencontrée sur le terrain, c'est vraiment cette question de l'hygiène de manière générale. C'est vrai que la question de la pratique du lavage des mains avant le prélèvement de l'eau n'est pas forcément pratiquée de manière uniforme sur l'ensemble des sites qui ont été étudiés. La question aussi des bidons qui étaient utilisés, les récipients, on a vu qu'il y avait une très grande diversité de récipients, dont certains qui ne répondaient pas forcément aux critères d'un récipient qui permet de prévenir la recontamination lors de l'utilisation et de son stockage. Également la question du stockage de ces bidons. On a eu beaucoup d'individus qui nous ont indiqué stocker les bidons à même le sol, alors que c'est une pratique déconseillée de par en fait la facilité avec laquelle des contaminations sont possibles après coup. À savoir que ceux-ci sont des exemples parmi une liste non exhaustive de différents points en fait, parmi lesquels on a ces contaminations qui se reproduisent. Donc on voit à quel point il y a une importance de renforcer les connaissances, notamment au niveau de l'hygiène, pour vraiment en fait, prévenir en amont la contamination, mais également en aval une fois que l'eau est traitée, et donc préserver finalement la qualité de l'eau qu'on a une fois qu'elle est traitée.
D'accord. Je vous remercie infiniment pour ces différentes perspectives et puis ces partages d'informations. Adrien, est-ce que vous avez un dernier mot sur ce comment est-ce que vous espérez la suite et la place d'Antenna? Qu'est-ce qu'elle peut jouer?
Alors, pardon. La place d'Antenna, pour la suite, elle a surtout vocation d'être accompagnante. Je dirais la balle maintenant est dans le camp de l'équipe à Kinshasa qui a pu s'approprier la technologie, qui a pu voir les bénéfices de cette approche. Il est, comme le soulignait Jessica, l'aspect pérennisation et financement de ces installations est une question clé qui mérite d'être traitée à part entière. Donc ça peut faire l'objet d'un projet par lui-même, mais cette démarche, pour qu'elle puisse être efficace et adéquate, nécessite d'être initiée surtout par les gens de Kinshasa. Et là, la Fondation, répondra dans la mesure de ses possibilités, au mieux de ce qui sera demandé. Par ailleurs, j'aimerais aussi saisir l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons eu aussi des acteurs qui sont, je dirais, un petit peu dans les coulisses. Je tiens à remercier mes anciens collègues qui ont passablement contribué sur ce projet, donc M. Schelling et M. Duvernay. Je tiens aussi à remercier le soutien de l'équipe de Watalux SA, sans laquelle nous n'aurions pas résolu tous les problèmes techniques et les imprévus qu'on a rencontrés, donc Leïla et HM. Je pense qu'il faut aussi souligner qu'une initiative de cette taille a beaucoup d'imprévus technologiques, parce que même si fondamentalement, en théorie, on sait ce qu'on a comme matériaux, comme matériel, il y a toujours des gens qui vont avoir la bonne idée de marcher sur le câble où il ne fallait pas, de couper le câble où il ne fallait pas. Donc ça fait partie des aléas. Et je tiens également à remercier la Fondation Michelam qui a contribué sur le financement de ce projet, notamment pour le matériel. Merci.
Merci à vous pour ce moment. On espère que votre projet Nanoukine va permettre de pouvoir inspirer d'autres projets également et puis donner envie de pouvoir aller à une échelle plus grande que simplement des pensées. Parce qu'on est dans une ville où il y a beaucoup de projets qui sont un petit peu dans notre tête, mais qu'on n'ose pas mettre en avant. Puis j'espère que ça va permettre d'inspirer. Et puis je vous dis à bientôt sur EcoVox.